Moi, je parle pas du Goumaï au Qatar oriental. J'ai répété totalement ce qui
se passe. Moi, c'est terrible de vous m'aider au Qatar oriental. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour, merci d'avoir choisi la fréquence de la paix, Radio Okapi. Nous sommes ensemble pour une heure d'échange et de partage dans votre magazine citoyen Parole aux auditeurs. Les chambres africaines extraordinaires ont condamné l'ancien président tchadien Hussein Habré à une peine de prison à perpétuité pour les crimes contre l'humanité, crimes des génocides et viols commis durant sa présidence de 1982 à 1990. Le verdict a été prononcé à l'issue d'un procès qui aura duré 5 mois. C'est pour la première fois qu'un chef d'État africain est jugé et condamné par un autre pays africain que le sien. Certains observateurs estiment que cette situation constitue un cas de jurisprudence pour la lutte contre l'extrême sur les continents. Une autre opinion pense plutôt que cette démarche pourra, avec le temps, remplacer les rôles joués par la CPI et souvent décriés sur les continents. Qu'en pensez-vous? Hippolyte Kapanga met un nom de ses magazines réalisés et coordonnés par J.R. Lungembo, Julie Fézabongonda et au standard. Et Pierrot Lamégie vous le présente sous la supervision de Martin Sebujango. Bien les auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et Amégie.
L'audience a duré 5 mois, c'était au Sénégal. Et rappelons quand même que la création des chambres africaines extraordinaires et qui ont fait l'objet d'un large consensus a été exprimée le 10 juillet 2006 lors d'un sommet de l'Union africaine à Banjul, la capitale gambienne, au nom de l'Afrique. Il a été décidé ainsi de créer ces chambres spéciales, ces chambres extraordinaires pour juger l'ancien président Hissène Habré qui s'était réfugié au Sénégal à la fin de son pouvoir en 1990. Cela a pu quand même évoquer et donner l'idée d'un procès historique, mais tout cela doit être regardé dans l'avenir, selon plusieurs observateurs de l'Union africaine, pour voir la capacité des pays africains de pouvoir juger sur le continent les auteurs des crimes contre l'humanité, crimes des génocides commis quand on exerce le pouvoir. C'est le débat au centre de notre échange, votre réaction par rapport à cette condamnation, mais aussi l'avenir, la capacité des pays africains de pouvoir se prendre en charge sur le plan juridique. C'est au centre de notre échange dans cette émission. Maître Gaël, vous êtes ici à Kinshasa. Merci de nous avoir rejoint dans cet échange. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
On vous écoute.
Merci beaucoup, Monsieur Pierrot. D'entrée de jeu, je voudrais dire ceci. Un principe fondamental en matière pénale, l'infraction ne sera jamais impunie. L'infraction ne restera jamais impunie. C'est-à-dire que si personne qui commet l'infraction, tôt ou tard, elle sera poursuivie, jugée et condamnée. Ceci dit, je salue le travail abattu par le Chambre spéciale extraordinaire africaine, qui ont condamné l'ancien chef d'État tchadien, en l'occurrence Hissène Habré. Je félicite également l'État sénégalais qui s'est impliqué en ces procès. Alors, je voudrais dire ceci. Par rapport à cette condamnation, je retiens deux leçons. La première leçon, à savoir, tout dirigeant africain doit savoir que Lorsqu'ils commettent les infractions, ils violent le droit de l'homme, ils sachent qu'il y a une justice africaine qui le poursuivra afin de leur juger. Et la deuxième leçon, à savoir que ceci démontre que les juridictions africaines ont la capacité de juger toute personne criminelle qui commettra l'infraction dans les continents africains. Merci beaucoup.
Merci, Maître Gaël. Vous avez dit le principe des droits. Toute infraction ne restera jamais impunie et vous pensez que cette condamnation de leçon, d'abord, c'est une interpellation, mais aussi pour dire aux dirigeants africains que ceux qui commettent des crimes ne pourront pas rester impunis, qu'il y a la justice qui existe quelque part. Merci beaucoup, Maître Gaël. Patrick, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pirou.
Mais on sait quand même que dans ces procès, n'y était la coopération de l'État sénégalais, ça pouvait peut-être être difficile. Il faut quand même saluer le courage du président Macky Sall, parce que du temps du président Abdoulaye Wade, on sait que ce n'a pas été facile de pouvoir juger l'ancien président Issa Labré. Il faut quand même saluer le courage du président Macky Sall. Pensez-vous que c'est un cas de jurisprudence et avec le temps, d'autres pays africains pourront accepter ou soit qui loge des anciens chefs d'État dans sur leur sol de pouvoir accepter qu'un jour ou l'autre ils soient jugés.
Oui, exactement, Monsieur Pierre, comme j'ai posté quelques commentaires là sur votre page. Donc, ça veut dire quoi? Ne saluons pas la personne ou l'individu de Monsieur Macky Sall. Saluons d'abord le courage et la maturité dont le peuple africain commence à faire montre. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, tout chef d'État en fonction sache bien que des crimes qui ne peuvent pas être et rester impunis, des crimes contre l'humanité, des crimes de viol, les consorts, tout ça, ça doit être poursuivi tôt ou tard en fonction ou pas. Le chef de l'État, Issa Labré, ancien président que soit-il, il a été condamné par ses pairs africains. C'est une condamnation que nous saluons et nous félicitons. Et nous demanderons aussi dans l'avenir que cette juridiction puisse demeurer et être continuelle quoi, pour décourager l'idéologie abrée dans les chefs de nos dirigeants africains.
Mmh. Mais d'un côté, Patrick, on a vu la Cour pénale internationale qui a lancé les mandats d'arrêt contre le président soudanais Omar el-Béchir. On voit comment l'Union africaine a été divisée. 90%, si on peut dire ainsi, des présidents africains ont même menacé de pouvoir quitter la CPI. Pensez-vous qu'avec ces genres de juridictions, ces chambres extraordinaires, on peut arriver à contourner petit à petit le rôle que joue la CPI, parce que l'Union africaine pense même qu'il serait mieux que l'Afrique se retire de cette juridiction et en estimant qu'elle ne s'occupe que des Africains.
Exactement, M. Pierrot. Ça veut dire quoi? Tout ce conglomérat-là d'amis, tout ça, de se soutenir entre eux pour s'échapper à l'impunité, tout ça, et ça disparaîtra un jour. Aujourd'hui, le peuple sénégalais, donc, a fait montre, donc je parle du Sénégal et je salue aussi le peuple sénégalais en passant, a fait montre de la maturité tant politique que judiciaire. Raison pour laquelle je venais de dire tout à l'heure là que toutes ces histoires disparaîtront un jour. C'est-à-dire, la justice aura sa place pour juger des crimes qui ne peuvent pas être, qui ne peuvent pas rester impunis. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui que le peuple africain se réveille, que le peuple africain prennent la responsabilité de sa destinée. Parce que si aujourd'hui, il faut toujours se recourir, voulais-je dire, à la CPI, à la Cour pénale internationale, vous voyez que, quelque part, là, ça fait défaut. Or, la compétence de la Cour pénale internationale, c'est international, oui, on ne refuse pas. Mais néanmoins, la justice africaine commence aussi à se réveiller, dire non. Aujourd'hui, si les Africains, entre autres les chefs de l'État qu'ils sont, commettent des crimes graves, entre autres des crimes de viol, des crimes contre l'humanité, doivent être jugés en Afrique pour donner aussi une leçon à certains chefs d'État africains pour dire non, aujourd'hui nous sommes mis au 19e siècle, moins encore au 21e siècle, les choses commencent à évoluer et l'idéologie abrée dans les chefs d'État, ça disparaîtra. Donc moi j'encourage cette condamnation.
Merci beaucoup Patrick. Vous pensez que l'Afrique s'est réveillée avec ses procès? Nous allons partir à Lubumbashi où nous avons notre invité en ligne, professeur Emmanuel Banuessizé. Vous êtes le directeur général de l'école de gouvernance économique et politique Ecopo Lubumbashi. Bonjour, vous êtes avec nous dans cet échange et bienvenue.
Merci Pierrot et salutations à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et pour rebondir à ce que venait de dire tout à l'heure Patrick, la condamnation du Ténabré sur le continent africain par ses pairs, est-ce qu'on peut dire là qu'il y a quand même dans la prise de conscience un réveil hein, sur les faits d'abord de condamner des crimes qui ont été commis, mais aussi que l'Afrique s'affirme qu'à un certain moment on peut être en mesure de s'assumer?
Oui, alors donc, je pense que je suis tout à fait d'accord avec tout ce que les auditeurs, les intervenants qui m'ont précédé ont dit. Est-ce qu'on peut noter effectivement qu'il y a une transformation de l'Afrique, il y a une évolution de l'Afrique, et je dirais même un changement de paradigme. Évidemment, certains continuent à penser que l'Afrique n'évolue pas, que les choses ne changent pas, mais on peut noter qu'il y a un changement majeur qui s'observe en Afrique sur tous les plans, et dans le sens où on ne voudrait plus que les choses se fassent comme avant. Bon, évidemment, il était impossible, il y a 10, 15, 20 ans, de voir un dirigeant africain qui a commis des crimes contre l'humanité, qui a utilisé les instruments du pouvoir d'État pour torturer ou pour détenir arbitrairement des citoyens, être jugé par des Africains. Il a été effectivement créé, comme vous le savez, une cour de justice pénale internationale, avec l'idée que nos tribunaux en Afrique n'étaient pas capables de juger de certains crimes. Bon, maintenant, avec les chambres africaines de Dakar, on a fait un pas en avant pour montrer que nous sommes capables de nous juger nous-mêmes. Ça veut dire que l'Afrique peut se juger elle-même. Et cet exemple a été donné en jugeant Hussein Abré, même si cela a pris du temps, on a pris 30 ans, je crois, ou même une vingtaine d'années, je ne me souviens plus, pour pouvoir les juger, il y a eu beaucoup de tractations, est-ce qu'on les juge en Afrique, est-ce qu'on les juge en dehors de l'Afrique, mais finalement, avec l'avènement de Macky Sall au pouvoir, les choses ont évolué rapidement, et on l'a jugé en Afrique. Bon, on aurait souhaité qu'on les juge, il aurait été souhaitable qu'il soit jugé dans son pays, au Tchad. Bon, malheureusement, la justice au niveau de Tchad n'a pas été à mesure de s'emparer de ce dossier, de les juger. Qu'ils soient jugés au Sénégal, cela montre que l'Afrique est capable de se juger elle-même. Mais et ça, c'est une évolution majeure, et ça, c'est un espoir, surtout pour les faibles, ceux qui sont victimes des puissants, de ceux qui abusent de leur position, ceux qui s'emparent des instruments du pouvoir d'État pour administrer la mort, pour détenir arbitrairement ou pour torturer, exproprier. Je crois que ça, c'est déjà en fait un espoir pour les victimes dans tous les pays de l'Afrique.
Mais quand on regarde la même Afrique, on voit la hargne avec laquelle l'Union africaine défend les Africains. Estimant que la Cour pénale internationale s'occupe que des cas africains, on menace même de pouvoir préparer un projet de retrait de l'Afrique, tout en rappelant quand même que les pays ont adhéré au statut de Rome individuellement. Ce n'est pas l'Union africaine qui est pays individuellement qui a adhéré. Mais d'un côté, nous avons quand même au Zimbabwe où ces réfugiés, Mengistu Haile Mariam, qu'on appelait l'homme de la terreur rouge en Éthiopie depuis 1991, il a été condamné par contumace dans son pays, mais on voit quand même qu'il a été plusieurs fois réclamé aussi par l'Éthiopie, vu l'ampleur des dégâts, des crimes qui ont été commis quand il était au pouvoir, et là ça a été un silence radio. Mais est-ce qu'on peut dire que l'idée d'avoir de pays qui ont une gouvernance démocratique assez élevée, acceptable, ça contribue quand même et ça peut jouer le rôle dans cette coopération et surtout livrer à la justice c'est que la justice réclame. Parce que quand on regarde celui qui est en Éthiopie, en exil depuis des années, plutôt au Zimbabwe, et celui qui a été au Sénégal, on peut dire que la gouvernance démocratique de ces pays a joué un rôle important.
Oui, enfin, vous avez tout à fait raison. L'avantage d'une gouvernance démocratique, c'est de favoriser les respects des libertés individuelles, les respects des droits humains. C'est ça l'avantage, en fait, enfin, l'un des avantages d'une gouvernance démocratique. Et dans l'état d'espèce, disons que le Sénégal a montré, en tout cas depuis maintenant une génération ou deux générations, que sa justice est indépendante, plus ou moins à 80%, 90% par rapport aux pressions du pouvoir et par rapport à la politisation qu'exigent d'autres justices dans d'autres pays africains. En tout cas, la justice sénégalaise s'est crédibilisée par rapport aux yeux au monde et par rapport à l'Afrique. Mais aussi, on sait que le Sénégal se caractérise aussi par une alternance démocratique, ce qui fait qu'une culture démocratique, en fait, s'installe durablement dans ce pays-là. Et cela donc permet, en fait, disons, au Sénégal, de pouvoir oser faire évoluer l'Afrique. Et c'est ça ce qui est avantageux. Mais je sais que nous aurions souhaité, si on ne se limite pas seulement au cas des... disons des Sénabré, il faudrait que ces tribunaux, ces chambres de Dakar soient pérennes en fait, qu'on pérennise cette tradition-là, et cette tradition évidemment peut se pérenniser soit au Sénégal, soit dans un autre pays que l'Union africaine devra en fait choisir, parce que, et c'est ça le paradoxe, je pense que l'Afrique doit sortir, l'Union africaine doit sortir de ce paradoxe-là. En même temps qu'il souhaite une justice, un état de droit, on souhaite en même temps dire, écoutez, nous on se retire de telles institutions parce qu'on s'en prend aux dirigeants africains. Mais la bonne manière d'empêcher effectivement la Cour pénale internationale de ne pas s'emparer des dossiers africains, c'est de mettre en place des gouvernances démocratiques et de crédibiliser les justices nationales dans les pays africains pour que les instances judiciaires dans les pays africains soient en mesure de juger des infractions qui se commettent dans les pays africains. Et à ce moment-là, on va enlever en fait à la Cour pénale internationale l'argument selon lequel il faut absolument que ces individus soient jugés hors du continent. Donc si on crédibilise les tribunaux à l'intérieur de chaque État, si on rend la justice indépendante par rapport aux pressions de la politique, cela va permettre justement de juger des infractions qui se commettent à l'intérieur de chaque pays dans le respect des droits de l'homme, dans le respect de la justice. Mais ensuite, il faut alors fonder une chambre africaine qui puisse s'emparer des crimes contre l'humanité ou des crimes... imprescriptible qui se commettrait sur les continents.
Le continent africain.
Et à ce moment-là, on devra savoir que l'état de l'ancien enfin, président éthiopien, en fait, ne pourra pas non plus échapper à ça, sauf s'il meurt avant. Mais on a encore de l'espoir, parce qu'on sait que la présidence au Zimbabwe n'est pas une présidence à vie. Donc les choses peuvent changer là-bas, et le changement peut entraîner effectivement l'évolution des choses pour que l'ancien président éthiopien soit également traîné devant la justice, ne serait-ce que, comme je l'ai dit, pour honorer la mémoire des victimes, parce que finalement, ils ne font pas qu'on ait une Afrique des hommes forts, de ceux qui sont au-dessus des lois, et des hommes faibles dont on peut bafouer les droits, on peut les piétiner, on peut leur donner la mort, sans que personne ne trouve rien à redire. Ces hommes-là ont besoin d'être honorés, ils ont besoin d'être respectés.
Amos, vous êtes à Bukavu, et Alain, ici à Kinshasa, Patrick Kawino, qui nous a écrit... Patrick Kawino Balanganaï qui nous a écrit des Kananga dit ceci, les efforts abattus par les chambres spéciales africaines sont à encourager. Ceci doit servir de leçon à tous les dirigeants africains actuels qui tuent comme ils veulent, que la justice africaine est capable de tout. Mais il reste à savoir si cette justice africaine est par aussi était à l'abri de la corruption, comme on le voit avec les juridictions nationales. Amos, vous êtes avec nous, bonjour. Amos, bonjour.
Je salue les différentes analyses de mes prédécesseurs. En fait, par rapport à ce qui vient de se faire au Sénégal, en condamnant Hissène Habré, je pense que les peuples les africains doivent s'en réjouir. Parce que nous avons toujours constaté avec nos dirigeants que quand ils sont au pouvoir, ils se comportent en des petits biais. Ils commettent beaucoup d'erreurs. Beaucoup de violations des droits de l'homme, des assassinats, des pillages, des détournements, des tripatriages, des constitutions, et tant de textes qui régissent leur pays, en pensant qu'ils sont au-dessus de tout. Mais ce qui vient de se passer pour y célébrer, je pense que ça doit être une leçon pour d'autres dirigeants africains que nous sommes en train de voir aujourd'hui, surtout les dirigeants de la région des Grands Lacs. Et là, je vois le Rwanda, le Burundi, je vois la RDC, mon pays, je vois le Congo, c'est-à-dire tous ces pays-là, c'est comme qui dirait, ces différents dirigeants, une fois arrivés au pouvoir, ils constituent un club d'amis pour non seulement faire souffrir leur population, mais aussi terroriser leur population parce qu'ils savent qu'ils ne seront jamais jugés. Et c'est pourquoi, vous voyez, ils se vêtent de leurs intérêts entre eux, au moment où la population qu'ils dirigent est en pleine souffrance. Moi, je me dis, en fait, par rapport à cela, ça doit aussi interpeller ces différents dirigeants pour qu'ils parviennent à se débarrasser de ceux-là qui les entourent et qui les poussent souvent à la faute. Parce que vous allez comprendre qu'une fois qu'ils ne sont plus au pouvoir, ce sont eux-mêmes qui sont jugés au moment où ceux qui sont en guerre sont libres, ils se promènent partout. D'ailleurs, ils rentrent demander pardon à la population en disant non, nous avons été trompés par le président qui nous a indiqué en erreur. Je prends même l'exemple du Burkina Faso. Vous avez vu avec Blaise Compaoré, il était entouré par des gens qui le disaient en erreur, mais quand la population du Burkina Faso s'était pris en charge en disant non, nous voulons mettre ça à notre souffrance, nous voulons mettre ça à la dictature de Blaise Compaoré, c'est Blaise Compaoré seul qui a porté sa croix. Comme le cas vient d'être fait pour Hissène Habré. C'est là que je me dis, au fait, d'autres présidents, parce que souvent en Afrique, et je prends l'exemple de mon pays aujourd'hui au Congo, il y a beaucoup de gens qui entourent notre président de la République. Au moment où le président fait qu'il laisse un mandat, il a déjà terminé les deux mandats, et il doit libérer le pays, il doit respecter la Constitution. Mais il y a d'autres gens qui l'entourent, surtout de sa famille politique, qui lui disent chaque jour, non, monsieur le président, de Tondiona noté, qui va vivre longtemps, il faut que tu mènes au pouvoir, ne sachant pas que l'histoire finira par les rattraper, et dès que le peuple congolais va se décider, dire non, nous voulons nous libérer, nous voulons faire respecter notre constitution, nous voulons promouvoir la démocratie dans notre pays, je suis le seul qui va répondre de ses actes, parce qu'il est le garant de la patrie, c'est lui qui va faire respecter la constitution. C'est donc que je me dis, même celle-là qui est lui, c'est du grand chef de l'État en erreur, elle aussi doit commencer à comparaître. Ah, je pense que la justice africaine doit aller très loin pour même commencer à interpeller tout ce monde-là qui ont travaillé dans les régimes qui a fait souffrir une population. Et c'est là que je me dis, le peuple aussi doit encourager de telles actions et commencer à montrer à leurs dirigeants que vous ne faites souffrir, mais il arrivera à un moment donné où vous allez aussi répondre de vos actions.
Merci beaucoup, Amos. C'est très bien ce que vous avez dit, Amos, par rapport à la responsabilité individuelle. On le voit aujourd'hui. D'ailleurs, dans plusieurs débats pour les cas du Tchad, les gens ont dit, mais pourquoi on doit juger Hissène Habré seul alors qu'il c'était tout un régime, il y avait toute une organisation. Alors, mais vous estimez que c'est ça le plus grand problème, ça doit interpeller plus les dirigeants des différents pays africains parce qu'ils sont les seuls enfin à porter la responsabilité, que ce soit aujourd'hui quand on regarde ce qui se passe pour la Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo qui est à la Cour pénale internationale, alors qu'on est entouré de beaucoup de conseillers. Pour vous, c'est un cas d'interpellation, mais des dissensions aussi pour ceux qui sont au pouvoir et ceux qui peuvent être encouragés par la population. Merci beaucoup, Amos, de nous avoir appelés. Merci beaucoup, Amos, de nous avoir appelé de Bukavu. Alain Bolodjo, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Radio Okapi. Bonjour à tout le monde.
Et dans votre message, dans le débat qui est sur la page Facebook, vous avez dit, cela doit interpeller nos juges nationaux pour exiger leur indépendance en vue de crédibiliser les institutions juridiques nationales. Mais en attendant aussi, vous estimez que la condamnation du Hissène Habré, c'est un garde-fou hein, pour les dirigeants africains.
Effectivement, je t'affirme ce que vous venez de dire. Moi, personnellement, je dirais c'est un cas d'école qui doit interpeller tous les dirigeants ou tous les décideurs au niveau africain, mais aussi conscientiser nos justices, notre appareil judiciaire, non seulement au niveau de notre pays, mais aussi partout dans les pays africains. Nous devons savoir que c'est la justice qui élève une nation. Et lorsque la justice est en mal de fonctionnement, eh bien, toutes les structures de l'État seront dans des difficultés de fonctionner normalement. Nous assistons à une sorte d'ivrognerie du pouvoir de la part de nos dirigeants qui se laissent emporter par des sentiments que nous pouvons qualifier ici, mais qui régentent pratiquement toute la population par des idées qui ne sont pas acceptables par tous. Aujourd'hui, nous assistons à un procès, à un verdict d'un ancien président. Ce qui veut dire que même si vous êtes au pouvoir, un jour vous serez appelé à répondre de vos actes, comme l'ont dit les prédécesseurs. Donc moi, parce que on doit encourager notre... Je prends le cas de notre pays. Cela démontre que la justice peut aussi être indépendante. C'est-à-dire pas seulement dans le sens de dire le droit pour bloquer le fonctionnement de l'État, mais dire le droit tout court. C'est-à-dire quoi? Ils peuvent interpeller et le chef de l'État et les autres responsables des institutions lorsqu'ils sont lorsqu'ils ont posé des actes qui sont répréhensibles, ils doivent être sanctionnés. Et comme ça, tout le monde aura la confiance de la justice. Aura la confiance de la justice. Et cela va mettre aussi une sorte de garde-fou pour tous les dirigeants qui se laissent emporter par la boulimie du pouvoir, l'ivrognerie du pouvoir. Ce sont ces choses-là qui empêchent à ce que nous atteignions le développement. Mais toutefois, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit par mon prédécesseur. Il a tenté de faire un raccordement frauduleux par rapport à la situation des élections. Et pourtant, nous sommes. Aujourd'hui, Senabré, le président qui vient d'être jugé, n'a pas été jugé pour avoir respecté la Constitution, mais pour avoir violé la Constitution. Ici, chez nous, il s'agit d'un choix ou d'une option politique qui doit être élevée par rapport à l'organisation des élections. Si on doit parler de l'article 70, tout le monde sait qu'aujourd'hui, le chef de l'État va rester en fonction jusqu'à ce qu'on va organiser les élections. Ça, c'est un principe, c'est une information qui est accessible à tout le monde. Mais ce qui est important, nous voulons avoir un état de droit. Et un état de droit passe impérativement par l'organisation de la justice. S'il y a même lieu de renforcer l'indépendance de la justice en lui dotant un budget exceptionnel, c'est-à-dire qu'on n'a pas, l'appareil judiciaire ne doit pas être margé dans le budget du gouvernement, parce que le gouvernement peut user de cet instrument pour imposer ou mettre en position de faiblesse notre justice. Si on peut déjà prévoir dans la Constitution et même dans d'autres lois, une quantité d'argent qui doit être réservée à la justice. Comme ça, la justice sera non seulement indépendante par rapport à sa prestation, mais aussi indépendante par rapport à sa source de financement. Et comme ça, la justice va réglementer ou va ramener tous les éléments à l'ordre. Et comme ça, nous allons cueillir ou carrément bénéficier du fruit de la justice qui va impacter
oui,
le social.
Mais Alain, est-ce quand moi j'ai évoqué tout à l'heure les cas du Congo, le Burundi, le Rwanda, le Congo-Brazzaville, en faisant les liens entre le débat sur le respect de la Constitution, c'est en estimant que la plupart des cas en Afrique, quand il y a un changement de régime et quand il y a par exemple la tentative, on l'a vu avec le Burkina Faso, on voit aujourd'hui hein, les violences qui sont restées perpétrées, ils sont pas utilisés peut-être les termes au Burundi. C'est que chaque fois quand il y a tentative de conservation de pouvoir ou de modification des règles de jeu pour la conservation de pouvoir, il y a des expressions de déception, de frustration qui, des fois, conduisent à des cas de violence. C'est pourquoi lui, il estimait que si les dirigeants africains arrivaient à pouvoir exercer leur règne dans le respect de textes et de lois, sans pour autant chercher à des chemins de tournée pour la conservation du pouvoir, ce qui provoque des fois des violences, on peut arriver à ne pas connaître des cas des crimes qui vont enfin conduire à des jugements et à des arrestations.
Oui, mais c'est ça que j'ai dit, c'est un accordement parce que nous ne sommes pas concernés. La République démocratique du Congo n'est pas dans les cas de son exemple. Aujourd'hui, le chef de l'État est appelé à passer le flambeau à un président qui sera élu. C'est notre constitution qui le dit. Quand même que j'appuie en partie ce qu'il a dit, parce que nous savons que lorsque la population va se soulever, parce que la population c'est le souverain primaire, c'est-à-dire celui qui décide en dernier ressort, lorsque la population va se soulever pour faire pression aux dirigeants pour la tenue des élections, et bien là nous ne serons plus dans l'ordre constitutionnel, mais ça sera plutôt dans une institut sociologique qui va appeler les gens dans une approche politique qui va appeler les gens à sortir dans la rue et à faire pression sur l'autorité pour qu'ils fassent. Mais là, le chef de l'État n'est pas concerné. C'est-à-dire, aujourd'hui, pardon de ce qu'il a dit, c'est une sorte d'un jugement qui se base tout simplement sur des erreurs ou sur une mauvaise interprétation de la Constitution.
Ok, merci beaucoup. On va écouter Alain.
Nous n'accepterons pas non plus qu'une frange de la population puisse être victime d'une mauvaise interprétation de la Constitution.
Oui,
de
ok, merci beaucoup Alain, mais rappelons quand même que dans l'argumentaire d'Amos, il ne parlait pas du chef de l'État, il parlait de l'entourage des chefs d'État africains. Il est revenu sur l'état de notre pays où il estime qu'il y a l'entourage du chef de l'État, de ceux qui ont créé de slogans, ceux qui disent que le chef de l'État ne peut pas quitter le pouvoir. Alors lui, il évoquait le fait que le chef de l'État a la fin du deuxième mandat constitutionnel, c'est dans ce sens, mais il revenait plus par rapport à l'entourage la responsabilité que portent les chefs d'État quand il s'agit de comparaître pour des cas, des crimes qui ont été commis sous leur responsabilité, alors qu'ils sont entourés des autres personnes avec qui ils gèrent le pays. Merci beaucoup, Alain de Kinshasa. Maître Olivier, vous êtes à Guadeloupe, vous gardez la ligne 0-81-890-7315 pour intervenir en direct. Nous rappelons que la condamnation du 5 avril, l'ancien chef d'État tchadien, a une peine de prison à perpétuité par les chambres africaines extraordinaires. C'était au Sénégal et au centre de notre échange. Pour certains observateurs, cette situation constitue un cas de jurisprudence pour la lutte contre les crimes sur le continent, mais il y a aussi l'opinion qui estime que la démarche pourra, avec le temps, si elle est maintenue, remplacer le rôle joué par la CPI, qui est souvent décrié sur le continent. 081-890-7315.
Chaque jour, la fréquence de la PMI le courant avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Professeur Emmanuel Badiou-Essissé, je reviens encore à vous. Vous avez suivi les points de vue des compatriotes, mais il y a quand même cet élément que vous avez soulevé sur l'amélioration de la gouvernance démocratique, hein, qui peut facilement aider l'Afrique à pouvoir aller de l'avant et ne plus revenir sur des cas des crimes. On voit chaque fois quand il y a, par exemple, des coups d'État, quand il y a les tentatives de conservation de pouvoir, quand il y a les problèmes de non-acceptation des résultats des élections, on a tendance à pouvoir régler les questions par la violence. Et alors, si les efforts doivent être fournis, parce que là, on porte la responsabilité sur les dirigeants, les chefs d'État, par exemple, mais il y a aussi le rôle de la société civile, le rôle des intellectuels, mais de tout l'ensemble de ceux qui accompagnent les chefs d'État dans la conception de la politique et de ce qui doit être fait pour se conformer aux lois de leur pays.
Merci encore une fois. J'ai suivi, même si tout à l'heure, avec les deux dernières interventions, j'avais pu comprendre qu'il y avait des glissements, enfin, un silence qui se faisait par rapport à d'autres sujets, alors qu'il s'agit de se concentrer sur les sujets qui font l'objet du débat. C'est les leçons à tirer du jugement de Hussein Habré par les chambres de Dakar. Alors, ce qu'on peut noter, comme je l'ai dit, et ça aussi, je crois que ça n'a pas été beaucoup souligné, je voudrais commencer par là, c'est que dans les procès du Sénabré, il y a eu également une avancée majeure. En fait, ces jugements ont marqué une avancée majeure en Afrique, dans le sens de construire une société de droit, une société démocratique. C'est que pour la première fois en Afrique, un ancien chef d'État a été jugé pour, a été reconnu coupable des crimes de viol perpétrés sur des femmes ou des jeunes filles qui sont venues témoigner, dont certaines femmes, certaines filles sont venues directement témoigner devant la cour pour dénoncer et décrire les abus dont ils ont été victimes. Je crois que là aussi c'est une avancée majeure, et vous savez que notamment pour que cela soit reconnu et qu'il soit jugé de ces crimes-là, des voix ont dû s'élever en Afrique, dont la voix des docteurs Mukwege, pour demander effectivement à la Cour d'avancer dans ce sens-là pour ériger les viols en crimes majeurs et qu'on doit punir. Exactement. Je crois qu'Hissène Habré a été condamné aussi pour ces crimes-là, des viols sur des femmes. Et ça ouvre une porte pour d'autres condamnations, des crimes de viol et des violences sexuelles qui se commettent en Afrique et notamment dans la région des Grands Lacs, parce qu'on sait que notre pays a été, les femmes dans notre pays ont été victimes des crimes d'ordre sexuel, des crimes de viol et qui jusque-là sont restés impunis. Et je pense que cela permettrait à la longue de pouvoir justement se servir de ces jugements de Dakar pour traquer, en tout cas dans la région des Grands Lacs, c'est particulièrement en République démocratique du Congo, les chefs de rébellion ou les chefs de guerre qui se sont rendus coupables d'une manière ou d'une autre des crimes de viol ou des crimes sexuels dans leur course effrénée pour la conquête du pouvoir. Ça, c'est déjà une avancée majeure. Bon, maintenant, vous avez relevé tout à l'heure dans votre intervention le fait que les gouvernances démocratiques permettraient justement de construire des états de droit en Afrique. Bon, mais on peut noter, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des forces réactionnaires dans beaucoup de pays, et particulièrement en Afrique centrale, parce que maintenant, on peut, une analyse sociologique rapide peut montrer qu'il y a deux Afriques. Il y a d'une certaine manière une Afrique de l'Ouest qui se réveille et qui veut absolument construire des sociétés démocratiques, des sociétés de droit, et finalement une gouvernance démocratique, et comme cela peut se voir au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire également, au Ghana et dans d'autres pays, au Bénin aussi. Et il y a une Afrique qui se montre réactionnaire, qui veut rentrer en arrière avec des pays de l'Afrique centrale majoritairement et des pays des Grands Lacs qui modifient des constitutions, qui les adaptent à leur cause. Mais on doit aussi noter qu'il y a une autre Afrique, et notamment l'Afrique du Sud, qui nous a montré qu'on peut diligenter une enquête contre le chef de l'État qui est en fonction sur l'usage des fonds qu'il a reçus de l'État et les sommets de les rembourser lorsque ces fonds-là n'ont pas été destinés et à ce à quoi ils étaient, disons, ils étaient votés. Donc tout cela, c'est encourageant. On voit donc qu'il y a deux Afriques, une Afrique réactionnaire, dont l'Afrique centrale est un exemple malheureux, et puis une Afrique qui avance. Et c'est ça ce qui nous intéresse, c'est finalement de dire que si nous suivons le modèle de cette Afrique qui avance, et qui, dont l'Afrique de l'Ouest est un exemple, et l'Afrique du Sud est un exemple, on peut donc espérer pour l'Afrique. On peut espérer que d'ici 5-10 ans, en fait, il y aura comme une certaine transformation positive qui va faire en sorte que des gouvernances démocratiques se mettent en place, que des institutions fondées sur le droit se mettent en place. Et l'Afrique ne peut vraiment s'en sortir que s'il met en place des institutions fondées sur le droit. Parce que c'est le droit, finalement, et un des auditeurs l'a dit dans une formule célèbre, c'est en fait la justice qui élève une nation. Lorsqu'une nation ruse avec la justice, en fait, c'est une nation qui est condamnée à reculer. C'est une nation qui, en fait, qui va s'empêtrer dans des problèmes. Je pense qu'on doit faire en sorte que nos institutions judiciaires soient effectivement réhabilitées, que partout, on sache que c'est l'alternance démocratique qui permet de distinguer la dictature avec la tyrannie. Lorsqu'il n'y a pas d'alternance au pouvoir, en fait, si ce sont les mêmes qui reviennent, on peut parler d'une démocratie, mais en fait, on n'est pas dans une démocratie, on est dans une tyrannie. On est dans un régime totalitaire. Et je pense que c'est en faisant cela, c'est en travaillant pour qu'il y ait alternance démocratique que nous allons construire une Afrique qui avance et qui marche et qui s'interdit de commettre des crimes en pensant que ces crimes resteront impunis.
Maître Olivier, vous êtes à Agbadolité. Bonjour, Maître Olivier.
Oui, bonjour monsieur le journaliste et bonjour également à l'invité.
On vous écoute.
Oui, bon, en fait, monsieur le journaliste, moi je commence quand même à féliciter les efforts abattis par cette chambre spéciale pour la condamnation de monsieur Hissène Habré, qui aujourd'hui va servir une mise en garde dans le chef de certains de nos dirigeants qui pensent devenir des rois lorsqu'ils sont au pouvoir par des agissements purement rebelles aux yeux de la loi. Et vous savez quoi, monsieur le journaliste? La CPI aujourd'hui est devenue comme un instrument au détriment des Africains. Puisque la plupart des justiciables qui sont déférés au niveau de la CPI ne sont que la majorité des Africains. C'est un aspect purement à déplorer. Alors, avec une chambre spéciale purement africaine, moi je pense que c'est quand même une avancée en termes juridiques pour les Africains de pouvoir eux-mêmes juger et sanctionner le dirigeant rebelle aux yeux de la loi. Alors, quant à mon avis, j'encouragerais plus nos dirigeants africains de se fédérer pour pouvoir renforcer l'efficacité juridique de cette chambre. Parce que cela aurait comme une avancée le respect du parterre tant dans le procès, puisque de nombreuses conventions disent que toute personne a le droit à ce que sa cause soit examinée dans un délai légal. Et si vous prenez l'exemple, le procès Hissène Habré a fait 6 mois devant une instance purement africaine, mais si nous allons au niveau de la CPI, l'exemple du procès Jean-Pierre Bemba a fait plus ou moins 7 ans, là vous allez voir déjà qu'il y a un grand décalage dans le respect du frater de frater temps. Mm-hmm. Ça sera quand même une avancée pour les Africains. Et aussi de deux, cela aussi servira à ce que qui est une mise en garde vraiment dans le chef de nombreux de nos dirigeants africains pour permettre à eux maintenant de se conformer aux règles de la loi.
Merci beaucoup, Maître Olivier. Vous avez quand même, en comparant le déroulement des procès à la Cour pénale internationale, le cas de Jean-Pierre Bemba pris de 7 ans, on a vu Laurent Gbagbo, et vous estimez que la célérité avec laquelle le procès du Sénabré s'est tenu au Sénégal, c'est important en termes de facteurs temps, et que si tous les gouvernants africains pouvaient se fédérer autour de ces projets, on pense que ça peut permettre à ce que la justice en Afrique soit renforcée. Stéphane, vous êtes à Boma, dans le Congo central. Bonjour Stéphane.
Bonjour Radio Okapi, bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute Stéphane.
Ok, merci beaucoup. Je pense que c'est une avancée significative dans le cadre de l'administration de la justice internationale et puis la lutte contre l'impunité. Mais je voudrais relever plusieurs choses ici, pêle-mêle, je ne sais pas en combien. Premièrement, je vois le premier obstacle contre ces chambres africaines extraordinaires qui va s'élever très très bientôt, ce sont les chefs d'État eux-mêmes.
Oui.
Parce que rappelez-vous que ces chambres extraordinaires ont été mises en place sur recommandation de l'Union africaine.
Mmh.
Et la tournure que ce procès a pris, son caractère pédagogique pour tous les potentats et les potentiels tyrans qui se comportent en des petits rois dans leur pays, ils vont très vite se liguer pour neutraliser la pérennité de ces chambres-là.
Mm-hmm.
Parce que ils ne sont pas en odeur de sainteté avec la justice. Et donc, tant que ces chambres africaines seront un peu sous le protectorat ou sous l'impulsion de l'Union africaine, sachant que l'Union africaine est complètement anesthésié par des dictateurs, des tripatrières de constitution et des tyrans de tous bords, cette Union africaine va tout faire pour empêcher la pérennité de ces chambres, parce que ces chambres auront de la matière à l'avenir, certainement. Alors, ça c'est le premier obstacle. La deuxième chose, c'est que nos dirigeants, ils doivent arrêter d'écouter leurs entourages fanatiques. Il y a un auditeur, un prédécesseur ici, que je salue, je crois, Alain de Kinshasa, qui disait, qui est allé dans un militantisme, il parlait de l'article 70 et tout ça, les jeunes États restent en place. Ça, c'est du militantisme, ça n'a rien à voir. Ici, nous parlons de la justice. On peut se maintenir au pouvoir, chercher, faites tout, allez puiser dans votre génie, cherchez toutes les méthodes possibles pour vous maintenir au pouvoir, même pendant 100 ans, mais qu'il n'y ait pas une seule goutte de sang.
Mm-hmm.
Je demande aux gens comme Alain et tous ceux qui, tous les activistes, les militants, ceux qui sont derrière, les gens qui veulent que X fasse 100 ans, fasse 200 ans, mes chers amis, vous êtes libre de le faire, vous êtes libre de réfléchir comme vous voulez, mais faites-le en sorte que aucune goutte de sang ne tombe. Dès qu'il y aura la moindre goutte de sang, tous vont se disperser, il n'y aura qu'une seule personne qui va en répondre.
Merci.
Donc,
merci,
oui, on peut bien beau dire que voilà, ici chez nous, ce n'est pas le cas du Burundi, ici, c'est l'article 70, la Cour constitutionnelle a dit oui, c'est du juridique, c'est tout ça, mais quand des gens se tiennent dans des marches, ils tiennent des propos. Ici, je voudrais noter et rappeler à tout le monde que, s'agissant de la RDC, la Cour pénale internationale, les organisations des droits de l'homme sont en train de documenter même des propos. Il y a des images qui sont envoyées via WhatsApp, via les réseaux sociaux, même des discours des gens sont interprétés. Et ça, c'est une mise en garde très sévère. Dans les prochains jours, que personne ne dise qu'il n'a pas été prévenu. Donc, tout ce que les gens disent, même les tenues que les gens portent quand ils passent à la télé, ça traduit toujours une intention. Et ça, c'est documenté et ça pèsera un jour contre des gens.
Merci, merci.
Il faut éviter les extrémistes de tous bords, tant du pouvoir que de l'opposition, qui s'amusent à tenir des propos, à jeter de l'huile au feu, à tenir des attitudes, poser des gestes qui sont susceptibles d'engendrer des violences, qu'ils sachent que tout cela est documenté et que ça ne restera pas impuni. Charles Blé Goudé, se trouve à la CPI, aujourd'hui, quand nous suivons le procès Gbagbo et Diégoudé, on lui montre même des tenues qu'il mettait, où il s'est proclamé général. On lui demande de démontrer qu'il était général de quoi. Voilà.
Voilà.
Donc,
voilà, oui. Merci Stéphane, je relève deux choses majeures dans votre intervention. Vous avez dit que avec le temps, ça sera peut-être difficile pour ces chambres spécialisées de pouvoir évoluer. Mais rappelons quand même qu'il y a eu une réflexion qui a vu jour parmi les chefs d'État africains qui sont contre la CPI. Il y a eu des déclarations signées approuvées à Malabo en juin 2014. Ils estimaient qu'il fallait avoir une chambre africaine, mais dès lors déjà les chefs d'État avaient déjà prévu l'humilité pour les chefs d'État africains, qu'on pouvait créer une justice et une cour purement africaine, mais déjà avec un article qui prévoit l'humilité pour les chefs d'État eux-mêmes. Et là, vous pensez qu'avec ces genres de projets, ça ne peut pas permettre à ce que ces chambres puissent aller plus loin. Mais pour revenir à ce que vous avez dit, Stéphane, vous estimez qu'on peut rester longtemps au pouvoir, on peut bien avoir autant d'années de pouvoir, mais votre problème réside au niveau de la violence, au niveau des pratiques, des crimes qui peuvent accompagner l'exercice des violences. C'est là où se trouve le problème. Merci beaucoup, Stéphane. Alphonse, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur JR.
Donc, vous écoutez, Alphonse.
Oui, je suis très content, vraiment, à propos de ce sujet, du sujet d'aujourd'hui. Nous félicitons vraiment la Chambre qui a eu à trancher la situation de Issenabré. Cette situation, c'est un avertissement pour le dirigeant, plus surtout le dirigeant de notre pays. J'ai suivi un camarade qui parlait à partir de Kinshasa pour l'article 70, l'interprétation de la Cour constitutionnelle. Ça les concerne. Nous souffrons du jour au jour. Les gens du pouvoir ne veulent pas manifester la bonne volonté de quitter le pouvoir tel que la Constitution a prévu. Nous sommes derrière la Constitution. Peu importe la décision de la Cour constitutionnelle, d'ailleurs la Cour constitutionnelle, c'est la proche de Kabila.
Mais aujourd'hui,
il faut jouer le jeu du pouvoir.
Oui, Alphonse, aujourd'hui, pour ne pas se perdre, aujourd'hui, les débats sur la CENI, nous l'avons eu d'ailleurs deux fois avec le président de la CENI, les débats sur la Cour constitutionnelle, nous l'avons eu. C'est pourquoi notre ami Stéphane estimait que Alain, qui intervenait tout à l'heure, pouvait se lancer dans l'immédiatisme. On revient sur le plan juridique. Aujourd'hui, on ne fait pas quand même les débats sur la personnalisation des Congolais qui vont être jugés demain. Mais nous voyons comment cela peut permettre à ce que l'Afrique puisse se libérer et être capable d'organiser ses propres procès. Comme ça va nous protéger contre d'autres interprétations qui ne sont pas liées vraiment à notre sujet, Alphonse.
Oui, c'est pour cela que je voulais aller plus loin pour montrer que ce procès-là, ça donne l'intention déjà, l'idée pour que nos dirigeants ici puissent voir ce qu'ils sont en train de faire. Tôt ou tard, les infractions, les fautes qu'ils sont en train de commettre aujourd'hui, ça va les poursuivre. Peu importe la durée, mais ils seront toujours poursuivis. Puisque quand on est au pouvoir, on croit que je peux tout faire puisque je ne serai pas poursuivi à la longue. Mais une fois qu'ils ne sont plus là, même quand ils sont là, puisque nous savons que les présidents africains, lorsqu'ils se coabilisent dans des réunions ou autres, ils se protègent. Mais une fois que la personne n'est plus au pouvoir, même son entourage va commencer à fouiller. Nous le savons, même les gens qui sont ici, qui sont en train de chanter du jour au jour, ils vont fuir le président Kabila et il va rester seul devant ses responsabilités. Nous le savons. Et nous leur disons, dans tout ce qu'ils sont en train de faire, ils peuvent le faire. Ils sont en train de tuer du jour au jour. Ils font tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais la CPI, il y a de différentes organisations internationales et nationales qui sont ici, les ONG, qui sont en train de documenter tout ce qu'ils sont en train de faire.
Et pour vous, vous avez rejoint Stéphane, vous avez évoqué les cas de l'opération du COFU. Nous en parlerons d'ailleurs la semaine prochaine. Le rapport a été publié par le gouvernement qui estimait à Alphonse que ce que les ONG avaient dit, ce n'est pas ce qui ressort de ce rapport. C'est un débat que nous aurons la semaine prochaine. Mais si on peut revenir dans notre débat, vous estimez au-delà de tout le militantisme, si possible, qui entoure les procès Issenabré, mais vous estimez que ce qui est important, c'est que la condamnation puisse servir de leçon pour l'Afrique, pour éviter que quand on exerce le pouvoir, on puisse tomber sous les coups des infractions qui peuvent faire à cet domaine, on soit référé devant les juridictions, qu'elles soient nationales ou internationales, pour être jugé. Je crois que c'est ce qui est important dans notre échange de ces jours. Nous allons revenir à Héritier qui est à Kisangani. Professeur Emmanuel, juste en une minute, vous avez suivi, quand vous écoutez la plupart de nos auditeurs, ils reviennent sur le cas du Congo, les gens estiment, ils insistent sur les cas du Congo. Est-ce qu'on peut dire que là, c'est la configuration sociale de l'exercice du pouvoir dans notre pays, qu'il y a quand même un message qui peut être interpellateur en écoutant les uns et les autres qui reviennent beaucoup sur le cas de la RDC. Professeur Emmanuel, en une minute avant qu'on écoute les deux derniers auditeurs.
Oui, je crois qu'il y a des leçons à tirer pour notre pays. Et cette leçon, elle est très simple. Ce que nous devons apprendre à tirer les leçons de l'histoire, même si malheureusement, comme vous le savez, et comme j'ai déjà eu à le dire la leçon que le dirigeant tire de l'histoire, c'est qu'il n'en tire aucune leçon. Bon, la leçon qu'il devrait tirer, aussi bien pour notre pays que pour d'autres, c'est que la loi du plus fort est fragile, car nul ne peut rester éternellement le plus fort. Et en dernière analyse, c'est ce que montre le procès de Dakar, c'est que la justice finit par triompher sur l'arbitraire, sur les injustices, mais également sur le banditisme d'État. Et c'est cela la leçon que nos dirigeants devraient tirer de tout ce qui s'est passé à Dakar, c'est que la justice finit par triompher sur l'arbitraire, sur les injustices, et surtout sur le banditisme d'État, quel qu'il soit. Il n'y a pas un pouvoir éternel, tout pouvoir a des limites dans le temps et dans l'espace. Et par conséquent, la justice finira toujours par triompher si on n'en tire pas des leçons ici et maintenant.
Héritier, vous êtes à Kisangani. Bonjour, Héritier.
Oui, bonjour.
Oui. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui, Héritier, que le fait qu'on ait ces chambres africaines extraordinaires qui ont été célébrées, cela peut renforcer la position de l'Afrique de comprendre qu'on peut, avec le temps, se séparer de la Cour pénale internationale?
Donc moi, je ne pense pas. Je ne pense pas dans cette hypothèse-là. Pourquoi ? Parce que, déjà, s'il faut analyser la procédure, ou soit le manœuvre de la traduction de M. Hissène Habré devant cette instance. Déjà, M. Hissène Habré est jugé juste après la fin de l'exercice de son mandat. Parce que, déjà là, ça pose un problème. Lorsqu'on regarde la plupart des auteurs des crimes imprescriptibles qui se commettent en Afrique, lorsqu'ils sont jugés devant la Cour pénale internationale, ils sont jugés pendant l'exercice. La plupart des chefs d'État sont jugés, soit sont poursuivis pendant l'exercice de leur fonction. Ici, il y a question des immunités qui ne sont pas prises en compte dans les statuts de Rome. Cela renforce la crédibilité de la Cour par rapport aux instances africaines. Et c'est là, je ne suis pas d'accord. C'est là qu'ils pensent qu'aujourd'hui, ces verdicts de M. Hissène Habré, cela renforcera encore beaucoup plus ma conviction aux dirigeants de l'Union africaine de mettre en place une cour africaine pour prendre en compte les crimes qui se commettent en Afrique. Moi, je crois, à mon humble avis, je ne suis pas d'accord, même avec mes prédécesseurs qui pensent à leur avis que la mise en place d'une instance pyrénéo-africaine pour prendre en compte les crimes qui se commettent en Afrique pourra améliorer et pourra également permettre à ce que les Africains puissent se retirer de la Cour pénale internationale. Parce que la crédibilité de la Cour pénale internationale est plus large et plus indépendante par rapport à une cour qui peut être mise en place et créée par les Africains.
Les Africains,
et surtout,
merci.
Quand on connaît qu'en Afrique, ce sont des dirigeants, ce sont tous ces dirigeants-là, tous les présidents qui sont les tenants de l'Union africaine, c'est eux qui pourraient en quelque sorte essayer de prendre encore, de mettre la main sur une cour qui pourrait être
créée. Et qui pourrait aggraver son fonctionnement. Merci beaucoup. Merci, Héritier. Il y a aussi Willy qui est à Kinshasa, avec qui on va terminer en une minute. Mais vous avez estimé que c'est plus mieux avec la CPI, parce qu'on a vu quand même le vice-président Kenyan qui a répondu devant la Cour pénale internationale. Il y a même le président Kenyan aussi qui a répondu. Mais à un moment, on a vu des tergiversations des Africains par rapport au cas Omar El-Béchir. Mais vous avez peur. Bon, vous estimez qu'une chambre africaine ne peut juger que quand on est à la fin de son pouvoir, mais pas pendant qu'on est en plein exercice du pouvoir. Willy, vous êtes ici à Kinshasa. En une minute, rapidement, pour permettre au professeur de conclure, Willy, votre point de vue. En une minute, rapidement, Willy.
Oui, merci. Bonjour d'abord à tous les auditeurs de la radio Tapi. Nous jetons des fleurs à l'Afrique en procédant de la sorte. Pourquoi ? Parce que le président africain doit se rendre compte que le pays qu'il dirige, ce ne sont pas les fermes de leurs pères, qu'ils doivent diriger n'importe comment, et ils doivent prendre conscience qu'effectivement, ils doivent avoir le sens des responsabilités. Ce qui est vraiment regrettable, il manque le sens des redevabilités. Ils travaillent n'importe comment, c'est pourquoi nous tenons que cela puisse continuer, et de sorte que le président africain ne puisse pas agir n'importe comment, et
merci.
C'est pas une bonne chose, voilà mon point de vue.
Merci beaucoup, Willy. Merci à vous passer. C'est une interpellation pour les dirigeants africains. Professeur Emmanuel Badiou-Sizo, on revient à vous. En une minute et demie, on a suivi les uns et les autres, mais quand même, tout le monde estime, beaucoup plus les gens soutiennent l'idée que cette condamnation soit vraiment un avertissement, puisse servir d'éducation pour les autres dirigeants africains pour conclure cet échange.
Oui, enfin, vous aurez compris qu'en fait, tout le monde estime qu'effectivement, cette condamnation constitue une avancée, même si l'intervenant de Goma a relevé des obstacles qu'il faudrait effectivement travailler à surmonter dans les futurs les plus proches pour pérenniser cette lueur d'espoir qui s'est levée à partir de Dakar et qui devrait être généralisée pour que l'Afrique finalement se regarde dans le miroir et se juge sans complaisance, qu'elle se juge elle-même au lieu d'être jugée par les autres. Et c'est la seule façon pour l'Afrique, effectivement, d'éviter de jeter des critiques contre l'Occident qu'on accuse à tort ou à raison de pérenniser l'impérialisme. Je crois que si nous ne voulons pas être jugés par l'Occident, nous devons nous regarder nous-mêmes dans le miroir et nous juger sans complaisance. Et il faudrait, et je l'espère, que la justice africaine qui va s'internationaliser, qui va se mettre en place, puisse contribuer à asseoir la gouvernance démocratique et surtout contribuer à construire une Afrique qui cesse d'être la poubelle des idéologies périmées, des nationalismes ataviques, comme ce qu'on attend maintenant revenir à la République démocratique du Congo et ailleurs dans les pays africains.
Merci beaucoup, professeur Emmanuel Banuessizé. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur général de l'école de gouvernance économique et politique EKOPO, Lubumbashi. Merci aux auditeurs, vous avez été nombreux. Merci à toute l'équipe des productions des paroles aux auditeurs. Gérard Mungembo était à la réalisation et la coordination. Julie Fez a été la gestion du standard et l'animation de la page Facebook et Hippolyte Kapanga était à la mise en œuvre. Pierre Lamégi a eu le plaisir de vous présenter cette émission sous la supervision de Martin Sebouljong. De paroles aux auditeurs, c'est aussi sur www.radiocapi.net. On se retrouve le lundi prochain pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Au revoir et surtout, bon week-end en compagnie de Radio Capi.